20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Il travaille au sommet du globe, aux limites de l'Oecoumène, dans ces terres gelées que nous jugeons hostiles, inhospitalières, assurément invivables. Bienvenue en terre arctique, au pays du permafrost. Ce soir, pour découvrir la recherche arctique, celle au-dessus comme en dessous du cercle polaire, les avancées d'une archéologie pionnière, le magazine d'archéologie de France Culture invite deux chefs de mission archéologiques œuvrant en Alaska. Claire Alix, Yann-Axel Gomez-Coutouli, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Maître de conférence à l'Université de Paris 1, Claire Alix, vous œuvrez actuellement dans le détroit de Bering, les rives de la mer des Tchouches, en terre Inupiaq. Yann-Axel Gomez-Coutouli, la nouvelle ne date que de quelques jours. Vous voici un des rares jeunes entrants de l'année 2018, désormais chargé de recherche au CNRS. Bravo. C'est dans l'intérieur de l'Alaska, non loin de Fairbanks, que vous recherchez les traces les plus anciennes de l'homme américain. Tous deux étiez de juin à fin août sur vos terrains respectifs, puisque l'un est à la taïga, ce que l'autre est à la toundra. J'évoquais un milieu hostile extrême, du moins de notre point de vue. Mais qu'en est-il réellement pour les sociétés arctiques ?
Donc les sociétés arctiques n'ont pas vraiment vécu dans un milieu hostile. Hein. L'environnement arctique est très riche en ressources, avec en même temps un milieu qui est impardonnable. Hein, si on ne se prépare pas et si on ne connaît pas cet environnement, mais en même temps c'est un environnement qui est riche de ressources à la fois migratrices et donc dont on peut envisager le retour.
Pour les Inuits, c'est le pays qui me fait vivre ?
Oui, exactement. C'est vraiment le pays qui les fait vivre. Les Inuits vivent dans leur milieu et considèrent leur environnement comme leur habitat.
C'est ce qu'on appelle le Nunavut, c'est bien ça ?
Le Nunavut pour les Inuits de l'Orient canadien, oui, de l'Arctique oriental canadien. Nuna étant vraiment la terre en Inuktitut. C'est pour ça qu'on a Nunavik dans le nord du Québec, Nunavut pour le reste de l'Arctique canadien.
L'Inuktitut étant la langue, bien sûr, parlée par les Inuits. Quoi qu'il en soit, l'Arctique est un milieu fragile qui vit aujourd'hui un profond bouleversement lié au changement climatique dont les effets dans cet environnement sont spectaculaires.
Sont spectaculaires, oui. On a l'habitude de l'entendre maintenant depuis pas mal d'années, hein, que tous les phénomènes de réchauffement climatique sont multipliés dans les zones arctiques. Et c'est vrai qu'au quotidien, on s'en rend compte réellement.
Les populations se rendent compte aussi ? Il y a moins de packs, moins de glace de mer ?
C'est pas tant qu'il y en a moins. Bon, elles se reforment plus tardivement et elles fondent plus précocement chaque année. Mais c'est surtout qu'elle est moins sûre. Il est beaucoup plus difficile d'anticiper en fait les conditions de la banquise. Et du coup, le problème, c'est que les gens se retrouvent dans un environnement qu'ils connaissent moins en fait et qu'il faut à chaque fois réapprendre. Et donc, ils peuvent moins anticiper leur déplacement et la sécurité de leur déplacement surtout. Et en même temps, on a la fonte du pergélisol, donc avec des problèmes là qui sont à la fois pour les populations locales, mais également pour toutes les infrastructures qui existent maintenant dans l'Arctique. Et puis, une recrudescence aussi de l'érosion des côtes. Et tout ça, ça a des conséquences sur les sites archéologiques, évidemment.
Des changements climatiques, il y en a eu, bien sûr, précédemment. Pour autant, quelle a été la capacité d'adaptation, la résilience des sociétés passées face à ces variations ? Voilà une question, j'imagine, sur laquelle vous travaillez ?
Oui, oui, bien sûr. Le peuplement de l'Arctique et les développements culturels de l'Arctique sont rythmés par des périodes de réchauffement et de refroidissement climatique. Et à chaque fois, les populations, donc, vivent avec cet environnement. Donc, ils ont l'habitude, en fait, et encore aujourd'hui, hein, les populations autochtones de l'Arctique vont vous dire que les changements climatiques sont un problème, mais qu'ils ont l'habitude d'y faire face. Ce qui change peut-être aujourd'hui, c'est la rapidité de ces changements, justement.
Yann-Axel Coutouli.
Oui, il faut pas oublier non plus qu'il y a eu les changements climatiques, mais aussi les changements environnementaux, où on a eu les populations qui se sont adaptées à des environnements steppiques, mais aussi à la forêt boréale. Et on parlait avant de cet environnement hostile. Il faut pas oublier que le Grand Nord a été colonisé depuis bien longtemps. Les premiers sites dans le Grand Nord sibérien sont à 30 000 ans, il y a environ 30 000 ans. À Yana, il y a environ 9 000 ans, on avait déjà des chasseurs mésolithiques qui chassaient l'ours blanc à plusieurs centaines de kilomètres au nord du cercle polaire, en Sibérie également. Donc ils se sont très vite adaptés à ces environnements que nous, occidentaux, considérons comme hostiles.
Claire Alix, la préhistoire de l'Arctique font-elle aussi comme neige au soleil? Travaillez-vous dans l'urgence à la recherche de ce patrimoine qui disparaît irrémédiablement?
Dans l'urgence, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des vrais changements dont il faut absolument tenir compte et tenir compte dans les développements futurs de l'archéologie de la région. Et il y a un consortium d'archéologues d'ailleurs aujourd'hui qui est dédié à ces questions. Et les grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on sauve finalement, puisqu'on sait qu'il y a des sites qui vont disparaître. Il y a des sites qui vont disparaître du fait de l'érosion des côtes, mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, il y a toute une grande quantité de sites archéologiques qui ont déjà disparu et qui font que dans cette archéologie de l'Arctique, on a des vides. Hein, et qu'il faut essayer d'expliquer, et qui parfois pourrait s'expliquer justement par le fait que les sites ont disparu et ne sont simplement pas là. Et en même temps, on a la chance de travailler dans une région où on a un pergélisol qui permet une très très belle préservation des matières organiques. Mais le problème, c'est que ce pergélisol fond, et que du coup, cette belle préservation, on ne sait pas pour combien de temps on va l'avoir. Donc la question est vraiment de savoir sur quelle question et quel site faut-il se concentrer pour répondre à quelles questions? Donc c'est des vraies problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui dans la discipline.
On sait bien sûr que pour les périodes anciennes, il ne reste souvent que la pierre, éventuellement un peu de matériaux osseux. En revanche, pour les périodes dites récentes, on a absolument tout. Et donc, c'est ce tout qui va disparaître.
Mais c'est ça. Et du coup, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans cette chronologie du peuplement, on a des périodes où justement on a très peu de matière organique et avec des périodes où on en a beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, on pourrait quasiment faire utiliser cette période actuelle comme un analogue pour essayer de mieux comprendre les périodes plus anciennes. Mais en effet, on retrouve parfois absolument tout dans ces sites, et du coup on a quasiment une overdose de matériel archéologique, parce que du coup ça pose aussi d'autres problèmes à l'archéologue.
Un article révolutionnaire paru en 1986 dans la revue Current Anthropology envisageait trois grandes vagues migratoires humaines à la conquête de l'Amérique, et cela à partir de la génétique, la linguistique et même les dents. Yann Axel Gomez-Coutouli, où en est-on aujourd'hui?
Alors effectivement, depuis beaucoup de nouvelles données, beaucoup de nouvelles théories et même de nouvelles disciplines, depuis l'image du peuplement de l'Amérique s'est enrichie, il s'est complexifié, et malgré de nombreuses avancées, ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore en train de débattre certaines des questions essentielles, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils sont arrivés, par où ils sont arrivés, qui étaient-ils, etc. Donc aujourd'hui, l'origine asiatique est quasiment incontestée, avec une migration par la Béringie. Le détroit de Bering, le continent qui unissait, il y a environ 10 000 ans, la Sibérie et l'Alaska. Et la question, c'est aujourd'hui, pour savoir par où est-ce qu'ils sont passés, est-ce qu'il y a eu une route terrestre ou une route côtière? Alors effectivement, en Alaska, on a essentiellement des sites anciens à l'intérieur des terres. C'est là qu'on a les sites plus anciens que sur la côte. Donc on sait qu'ils étaient de toute façon présents à cet endroit-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à il y a environ 13 000 ans, l'Alaska était coupé des États-Unis par un idlancis qui allait du Pacifique jusqu'à l'Atlantique, donc une grande couverture glaciaire qui empêchait le passage. Et pour expliquer certains des sites un peu plus anciens qu'il y a aux États-Unis ou en Amérique du Sud, on a dû mettre en place cette hypothèse de la route côtière.
Une sorte de corridor côtier.
Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, la plupart des sites ont disparu. Donc les sites ne sont pas plus anciens que dans la région antérieure. Par contre, ils permettent d'expliquer ce problème-là, même s'il commence à y avoir des évidences concrètes, comme des traces de pas découvertes en Colombie-Britannique datant d'il y a 13 000 ans, ou des occupations sur des îles en Californie il y a environ 11 000 ans. Donc cette théorie commence à vraiment prendre de l'ampleur et se confirmer comme une théorie plausible.
Justement, on évoque aujourd'hui l'isolement de certaines populations durant des millénaires dans justement de ce détroit de Bering, ce qu'on appelle la Béringie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors effectivement, c'est la théorie de l'isolement béringien, le Beringian Standstill Model, qui, sur la base de la génétique et de la génomique, a mis en place cette hypothèse pour expliquer certaines des spécificités des données génétiques concernant les populations actuelles. Et cette hypothèse part du principe qu'il y a eu un isolement probablement côté Asie du Nord-Est ou dans le milieu de la Béringie qui a aujourd'hui disparu, et où un groupe de population serait resté pendant 10 à 20 000 ans isolé avant de pénétrer de façon assez rapide sur le continent américain. Et aux alentours de 15-16 000 ans. D'un point de vue de l'archéologie, effectivement, on a des sites côté sibérien à 30 000 et la plupart des sites non contestés sont aux alentours de 15 000, donc ça pourrait correspondre. Mais encore une fois, c'est une discipline naissante qui évolue et il faudra voir ce que l'archéologie peut apporter à cette théorie précise.
En tout cas, vous avez déjà fouillé deux sites, l'un dans la vallée de Tanana et l'autre nommé en Guinée et que vous fouillez depuis donc 2016. Dans ce dernier site, vous avez trouvé un campement vieux de 10 000 ans avec notamment d'ailleurs des jeunes tailleurs apprentis.
Oui, alors le contexte, c'est on est dans la région antérieure de l'Alaska où on trouve actuellement, comme je l'ai dit, les plus anciens sites de l'Alaska. On est dans la forêt boréale, même si au tout début, on était aussi dans un environnement steppique. Le projet actuel de la mission archéologique française en Alaska se centre donc sur Little Panguinée, donc en collaboration avec les collègues de l'Université du Texas. Et on a effectivement trouvé un niveau qui correspond à un campement d'il y a 10 000 ans, avec notamment un atelier de taille et justement des apprentis. Alors comment est-ce qu'on voit qu'il y a des apprentis? C'est assez simple. On voit sur un même niveau des outils, dans ce cas des nucléus, qui sont taillés avec une qualité de taille très, très nette, très, très importante. Et sur le même niveau, on a des nucléus qui présentent des erreurs de taille typiques de l'apprentissage de la pierre taillée.
Vous recherchez bien entendu ces éventuelles migrations au travers des objets et des techniques de l'industrie de pierre. La taille à la pression, une méthode très particulière, serait un très bon filum pour retrouver l'origine de ces populations.
Justement, sur le site, on a ce type d'outil et c'est une technique qui apparaît il y a environ 20-25 000 ans en Asie du Nord-Est. Et je ne vais pas me lancer dans son détail de cette technique, mais juste pour dire que cela permet de produire des petits outils très standardisés, très coupants, qui vont être utilisés en les mettant bout à bout sur des pointes à noces ou en bois de cervidé. Ça va créer des couteaux ou des sagaies pour la chasse. Et en fait, cette technique qui est facilement identifiable sur les différents sites permet de suivre donc ce type d'outils, mais surtout les populations qui vont avec, de l'Extrême-Orient, puis en Sibérie, puis en Alaska, et représente effectivement un marqueur technologique fort que l'on retrouve vers l'Amérique, mais aussi cette même technique diffuse dans des contextes différents vers l'Asie centrale par exemple.
Cette technique de la pression, on le sait, enfin du moins les archéologues le savent, ça naît entre Hokkaido et la Corée. On peut penser que donc la technique que vous avez découverte sur le terrain provient de ces régions-là?
Alors ça, c'est un des grands débats actuellement, savoir quel est le foyer exact de cette technique. Donc on sait par rapport aux datations qu'elle apparaît quelque part en Asie du Nord-Est. Après, il y a un grand débat pour savoir si c'est plutôt en Sibérie du Sud ou plutôt en Corée ou vers le Japon. Donc moi, je défends plutôt cette hypothèse-là. Mais tout dépend aussi de l'interprétation qu'on fait de cette technique, savoir si on parle uniquement de lamelles ou de lamelles par pression. Et je pense que c'est là la question cruciale.
En tout cas, vous avez probablement vu tous les deux un documentaire récemment diffusé sur France 5 évoquant la conquête des Amériques par les populations européennes en Amérique. Donc la fameuse théorie de la French Connection, idée que nombre d'archéologues rejettent en masse.
Oui.
Oui, alors c'est une théorie marginale qui a été mise en avant. Alors certains auditeurs peuvent penser qu'il s'agit d'une théorie nouvelle, mais ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. Et en 20 ans, les deux archéologues essentiellement qui défendent cette idée n'ont réussi à convaincre ni les archéologues japonais, ni russes, ni canadiens, ni américains, ni français. Et c'est une théorie bancale qui se base sur des extrapolations. Et à ce jour, le problème, c'est qu'il y a un écart chronologique de plusieurs millénaires. Il y a les données génétiques ne permettent pas d'apporter un soutien à une origine européenne. Les données archéologiques ne sont pas là, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de site de ce type-là au maximum glaciaire aux États-Unis, ou l'absence d'adaptation maritime majeure de la part des solutréens.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Yann-Axel Gomez-Coutouli, j'ai lu très attentivement vos rapports et publications et ai découvert que, pour vous protéger dans ce milieu hostile, vous utilisiez des gaz poivrés contre d'éventuels ours.
Effectivement, on côtoie les grizzlies et les ours noirs, mais honnêtement, notre préoccupation principale, ça reste les moustiques.
Claire Alix, les gaz poivrés aussi chez vous?
Chez nous aussi, oui, et puis les fusils, oui. Juste pour la protection, oui, des ours. Mais c'est vrai que les moustiques sont le problème principal.
Claire Alix, plongeons sur les rives américaines de la mer des Tchouches, en plein détroit de Bering, sur un site dont une légende est dit que les hommes y auraient été punis.
En fait, le site se trouve sur une flèche côtière, en fait, le Cap Espenberg, qui est donc composé d'une série d'une avancée, en fait, de plages marines. Et dans les périodes les plus récentes d'occupation, le site a été abandonné il y a à peu près 150 ans, à peu près. Et il y a une légende, en effet, qui dit qu'il y avait un grand chaman dans la région et qui était un chaman trop gourmand quelque part. Et pour se venger, donc, il a été assassiné parce qu'il prenait trop de il avait trop de prérogatives.
Et donc,
il accumulait trop de parts de chasse des autres, du peuple avec lequel il vivait. Et donc, pour se venger, la mère du chaman va déposer une moufle pleine de sable à la pointe donc du Cap Espenberg, qui fait qu'aujourd'hui on a des très hauts fonds et qui font que donc les ressources marines n'arrivent pas aussi proches de la côte qu'autrefois. Donc c'est intéressant du point de vue géomorphologique aussi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que le partage est très codifié en milieu arctique.
Le partage de la nourriture, oui, des proies, etc. Oui, bien sûr, en fonction aussi de qui a harponné le premier et qui est le capitaine de l'Umiak, l'embarcation de peau de phoque et avec une ossature en bois.
Nous sommes en terre Inupiaq.
Oui, Inupiaq.
Qui
sont les Inuits du nord de l'Alaska et qui parlent la langue Inupiaq, qui est proche de l'Inuktitut, qui est la même langue que l'Inuktitut.
Vous êtes dans un cadre absolument sublime, j'imagine.
Ah oui, surtout que le Cap Espenberg, c'est un lieu absolument magnifique où on voit à la fois, il y a énormément de ressources animales et d'espèces animales qui traversent c'est un parc national en plus, c'est le Bering Land Bridge National Preserve. Et il y a les oiseaux migrateurs qui sont là, les grues, il y a les troupeaux de caribous, il y a même des élans aussi qui arrivent. Ils sont un peu perdus dans cet environnement de côtier, mais ils y viennent régulièrement. Il y a des bœufs musqués, des ours, et puis des espèces marines qu'on voit passer.
Du morse, par exemple, dans cette région?
On ne voit pas trop de morse, non. Il y a du morse un petit peu plus au nord et plus à l'ouest, mais il y a surtout des phoques barbus, donc les grands phoques, et puis des baleines aussi, des belugas, et puis des grandes baleines franches qui passent beaucoup plus au loin, puisqu'on est dans, je vous ai dit qu'il y avait des hauts fonds.
Et tout ça est chassé?
Et tout ça est chassé aujourd'hui. Alors la baleine, pas là, directement dans la région, un peu plus au nord, mais les phoques, bien sûr, ils sont chassés aujourd'hui par les populations locales.
Les fouilles que vous menez sont absolument superbes. Des maisons en bois, probablement d'hiver, à l'image de ce que décrit Marcel Mauss.
Oui, alors on a principalement des maisons semi-souterraines qui sont des maisons d'hiver, qui était construite à moitié enterrée avec des ossatures en bois qui incluent de temps en temps des ossements de baleines et qui était recouverte donc de tourbe et ensuite donc de neige pour l'isolation.
On connaît bien sûr ces maisons en os de baleine. On aurait une sorte de tradition de la maison en bois, semble-t-il aussi. C'est votre sujet d'ailleurs, c'était votre sujet de thèse.
Oui, c'était mon sujet de thèse et que ça continue à être un sujet de recherche qui m'anime pas mal. Donc le bois est un matériau essentiel hein, et dans toute l'Arctique occidental hein, qui va inclure donc l'ouest de l'Arctique canadien et toute la côte alaskienne, on a un accès au bois qui est assez important. Par des quantités de bois qui arrivent chaque année sur le littoral. Donc c'est des bois qui ne poussent pas localement, mais qui sont disponibles localement par contre, et qui reviennent chaque année. Et donc ces bois, ils ont été essentiels pour l'architecture, mais également pour un grand nombre d'objets et d'outils et d'armes de chasse.
Le mobilier est tout à fait, bien sûr, très bien conservé. Fourrure, cuir, cheveux, copeaux, le tout cimenté par de la graisse de phoque. Voilà ce que vous trouvez quotidiennement?
Voilà ce qu'on trouve quotidiennement, avec parfois de la difficulté même à fouiller, puisque cette graisse de phoque cimente considérablement tous les objets qui sont trouvés. Et en plus, parfois, il y a eu des phases de chauffe qui font que ça, c'est vraiment comme du ciment. Et parfois, il faut quasiment y aller à la pioche, en fait. Mais bon, c'est pas à chaque fois. Mais en effet, tout est cimenté et tout est extrêmement bien conservé. C'est magnifique.
Et une culture matérielle, des objets tout à fait extraordinaires. J'en prendrai quelques-uns pour exemple. Des propulseurs, des pagnes en ivoire, une très belle représentation humaine. Ça, c'est votre quotidien?
Oui, c'est notre quotidien. Enfin, évidemment qu'on ne retrouve pas ça tous les jours non plus, mais c'est vrai que l'an dernier, on a trouvé un propulseur complet qui était là, juste à côté d'un des murs de la maison, et dans les niveaux les plus bas. Et c'est vrai que c'était un moment de découverte assez impressionnant, quoi.
Peut-on passer sous silence les liens entre rive américaine et continent russe, mieux les confins russes? Vous avez retrouvé du bronze, du très vieux bronze, qui n'avait absolument rien à faire sur les rives du détroit de Bering?
Oui, en effet, ça c'était en 2011, dans une maison donc qui est datée de la période Birnirk, hein, donc qui est datée juste au tournant du deuxième millénaire après Jésus-Christ. Donc au 11e, 12e siècle, on a trouvé deux fragments de métal blanc, en fait, d'un alliage qui correspond à du bronze, qui est le même alliage pour les deux objets et qui proviennent probablement, enfin, de point de vue typologique, là pour le coup, il y en a un, c'est une boucle. Et il y avait un petit bout de cuir qui était encore conservé, donc on a pu le dater directement. Et cet objet rappelle un petit peu certains objets de Chine et qui auraient pu arriver donc sur le site du Cap Espenberg, soit par le nord, par la Yakoutie, soit par le sud, la Corée et le Japon. Alors après, la question, c'est de savoir par quelle route ces matériaux...
Et par qui aussi?
Et par qui ont-ils... Alors on sait que ça circule beaucoup, hein, les matériaux circulent beaucoup à cette période. Et on a aussi, par exemple, dans le bassin de l'Amour, des têtes de harpons qui présentent des traits typologiques très proches des harpons Old Bering Sea qu'on retrouve dans le détroit de Bering dans les premiers siècles du premier millénaire après Jésus-Christ. Donc on sait qu'il y a des vrais contacts, hein, et des vrais, enfin en tout cas de proche en proche, où le tout étant de savoir par quel mécanisme hein, ces objets circulent.
Quel est le rôle, la place des populations autochtones dans vos recherches, puisque nous sommes ici aussi dans la perte des savoirs?
Donc les populations autochtones avec lesquelles nous travaillons, c'est principalement les familles en fait qui sont descendantes de ceux qui ont des liens très proches avec le Cap Espenberg, donc principalement des gens qui habitent à Shishmaref et à Deering et ou même Kotzebue, donc qui sont les villages les plus proches et avec lesquels nous essayons de travailler le plus directement. Nous avons organisé à la fin de chaque terrain des ateliers à Shishmaref pour essayer de présenter justement nos recherches. Nous avons des jeunes lycéens qui viennent travailler avec nous sur le terrain et on essaye comme ça d'avoir des contacts et des relations le plus proche possible, hein, de manière à ce qu'il y ait un échange, un vrai échange, et que l'information aille dans les deux sens.
Vers le XIIIe, XIVe siècle, une vaste migration d'Est en Ouest s'opère, la fameuse migration Thulé. De nouvelles recherches génétiques confirment-elles les théories des archéologues ?
Oui, alors d'ouest en est, en effet, les Thuléens vont partir depuis le nord de l'Alaska vers le Groenland. Et aujourd'hui, en 2014, il y a eu un article qui a été assez majeur, hein, qui a été publié dans Science avec toute une énorme ribambelle de chercheurs, mais qui est vraiment intéressant parce qu'elle montre qu'en fait, dans ces deux grandes vagues de migration qu'on a l'habitude de considérer pour le peuplement de l'Arctique canadien, c'est-à-dire le paléo-inuit et le néo-inuit, en fait, on se rend compte que ces deux grandes traditions culturelles, d'un point de vue génétique, ne montrent pas de mixité, sauf à une échelle très ancienne qui se serait faite plutôt dans le détroit de Bering avant la première migration paléo-inuit.
Plongeons chez les Yupik récents, pour ne pas dire tardifs. Nunalek est un site, bien sûr, récent, fouillé par l'université d'Aberdeen, mais qui fait aussi grand bruit, eu égard ces découvertes de masques tout à fait extraordinaires.
Les masques, oui, de Nunalek sont absolument extraordinaires.
Ils en ont encore retrouvé cet été.
Cet été, alors Yann Axel pourra parler de Nunalek mieux que moi, mais puisqu'il travaille directement sur ce site. Mais en effet, c'est un site qui est intéressant pour notre projet du Cap Espenberg, puisqu'on a des occupations qui sont contemporaines de Nunalek.
Alors bien sûr, nous voici devant une archéologie de l'objet, puisque ces masques sont vraiment des pièces de musée. Mais rappelons que femmes, enfants, tout le monde a été décimé dans ce village d'Agaligmut.
Oui, effectivement. Donc ce site est vraiment extraordinaire. Donc comme vous l'avez dit, fouillé par l'université d'Aberdeen et en projet en collaboration avec le laboratoire Préhistoire et Technologie de Nanterre. Et il a intérêt à double titre. C'est la conservation, comme vous l'avez dit, des matières organiques grâce au pergélisol, des masques, des kayaks, de la technologie osseuse, la technologie sur bois, des textiles, mais aussi le contexte du site. C'est la première fouille dans site de la période de la guerre des arcs et des flèches chez les Yupik, et effectivement une période qui était marquée par de nombreux conflits entre groupes Yupik avant l'arrivée des colons russes, et ce site a justement été détruit pendant un de ces conflits. Et le site a été complètement brûlé, les occupants tués, et c'est aussi pour ça qu'on retrouve tout le matériel, puisque le site a été abandonné et tout a été laissé sur place.
On dit souvent que les Yupik étaient pacifiques, il n'en est rien donc.
D'après les données ethnographiques et archéologiques, pas vraiment. On est plutôt dans un contexte de guerre violente avec raids d'extermination, décapitation et autres.
En tout cas, on s'en souvenait dans la mémoire orale.
Oui, justement, quand il y avait eu un recensement un peu de toutes les histoires orales chez les différents groupes natifs d'Alaska et chez les Yupik, c'est cette phase qui a duré plusieurs centaines d'années, même si les contours chronologiques sont encore flous, cette phase de conflit entre groupes Yupik était extrêmement présente dans la plupart des récits comme une période de violence. Et en fait, c'est surtout de ces données ethnographiques, mais aussi celles des premiers colons russes qui nous ont apporté des informations sur cette période.
Pourtant, là, on est durant une période où il n'y a pas encore de contact avec l'Europe.
Non, pas encore. Donc, on peut pas. C'est pas la faute aux Européens.
Yann Axel Gomez Koutouli, à partir des pointes de projectiles que vous étudiez, arrivez-vous à reconstituer cette attaque ?
Oui, en partie. Donc, le projet est en cours, la fouille est en cours, mais l'étude de ces pointes de projectiles, justement, on voit sur ce site qu'il y a plusieurs niveaux d'occupation. Le dernier étant évidemment l'attaque sur le site, et grâce aux différents types de pointes, on arrive dans certains cas à voir même quelles pointes étaient celles du village qui était attaqué et quelles appartenaient aux attaquants. Et à partir de là, on peut essayer de voir par où est-ce qu'ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais le projet est encore en cours.
Ils ont en tout cas probablement tiré des flèches sur les toits.
Oui, et ils ont mis le feu à la maison et avec les gens dedans.
Claire Alix, Yann Axel Gomez Coutouli, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Stéphane Desmond et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se penchera sur l'archéologie de la Première Guerre mondiale.